RMC, le grand oral des grandes gueules.
Vous le connaissez sous le prénom de Moundir, mais il revient avec un livre. C'est Moundir Zougari qui est avec nous, l'ancien candidat de Koh-Lanta. Et sur RMC, on l'écoute tous les dimanches à minuit avec Daniel Riolo dans le RMC Poker Show. Et là, vous revenez avec ce livre très personnel qui s'appelle Père et Fils aux éditions Robert Laffont. Bonjour Moundir.
Bonjour et bonjour à tous.
Merci. Comment allez-vous Moundir? Parce que vous avez connu un Covid hard.
Oui, d'abord, je vais très bien parce que je suis à la maison. Premièrement, depuis 5 ans. Et puis effectivement, j'ai connu un Covid assez difficile pour moi, où j'ai un peu frôlé la correctionnelle. Et voilà, on essaye de revenir du mieux que je peux, avec les meilleurs éléments autour de moi.
Donc, racontez-nous un peu, parce que quand on a parlé des malades du Covid, on parlait surtout des personnes âgées, mm-hmm. des personnes obèses, en fragilité. Ouais. Vous, a priori, il n'y avait pas de raison que ça vous tombe dessus aussi.
J'avais un petit peu de poids, mais parce que je suis quelqu'un de très gourmand et que ma femme cuisine très bien. Ça, c'est la première des choses. Oui, j'ai eu le variant anglais, voilà, qui m'a frappé en 24 heures. Et mon état s'est aggravé pratiquement en 48 heures, très rapidement.
Donc je suis
hospitalisé en réa pendant 5 jours, 18 jours à l'hôpital dans un service qu'on appelle les maladies infectieuses. Voilà, et ensuite il y a eu ce qui pour moi est le plus difficile, c'est la convalescence post-Covid, le fait d'avoir enchaîné entre guillemets ce qu'on appelle les merdes, où mon corps réagissait très mal aux inflammations du Covid, donc une infection pulmonaire, où ensuite j'ai eu un épanchement pleural, donc voilà, différents protocoles de médicaments pour trouver le bon.
Et aujourd'hui, des séquelles encore ?
J'ai des séquelles, oui, bien sûr, parce que je n'ai pas récupéré la pleine puissance, en tout cas, de mon amplitude respiratoire. Je travaille fort et dur, même si par il y a des jours où vraiment j'en ai ras le cul.
Comment ça, vous faites vous courez
Beaucoup de vélo, beaucoup de cardio, ouais. Parce qu'il faut que mes tissus pulmonaires reprennent vie. J'ai tout le poumon gauche qui est pratiquement mort, qui doit revivre, et que le poumon droit ne doit pas travailler aussi pour le gauche. À la suite de ça, effectivement, parfois on a aussi des pertes un peu de mémoire, où il y a des mots faciles quand on en a mal, on peut dire, et que parfois il y a des trous. Voilà. Bon, j'en ai un peu moins aujourd'hui, mais il est vrai que il y a 90 jours, c'était pas terrible.
Mais on vous a dit que vous récupéreriez l'ensemble de vos capacités. Oui,
totalement.
Ça,
oui, on m'a donné un an, mais je me donne entre 6 et 7 mois.
Ah, vous voulez aller plus vite que la musique.
C'est exactement ça. C'est un
c'est
peu
léger. Koh-Lanta, ça.
Il y a longtemps. J'étais un peu jeune là-dedans. Non, mais ça fait partie de l'ADN de famille, de pouvoir travailler très dur, et je suis une famille de travailleurs, donc il faut que j'arrive à récupérer vite, et d'abord pour mon métier, mais aussi pour courir auprès de mes enfants.
C'est ce que vous racontez dans ce livre, c'est en famille de travailleurs, c'est votre papa, votre mère qui a élevé six garçons,
oui.
Ouais. Et elle les tenait?
Ah ben, de par sa présence, oui, on a eu une éducation qui... on redoutait plus notre mère que notre père.
C'est ce qui manque aujourd'hui. Justement,
la ministre de l'Intérieur, effectivement.
La ministre de l'Intérieur, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une semaine sans qu'on raconte justement une partie de la jeunesse à la dérive des ados très jeunes. Et à chaque fois, la question, c'est où sont les parents? Qu'est-ce que vous avez à dire là aujourd'hui, justement, sur toute cette partie de la jeunesse qui s'est affranchie des codes et vous, ce que vous avez vécu?
C'est une excellente question que vous me posez là, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une jeunesse qui est extrêmement très dure avec ce qu'on voit actuellement. On a eu la chance de voir nos parents souffrir, et que pour nous ça a été une belle leçon, et qui ont été des exemples, parce que la seule chose qu'ils disaient lorsqu'ils ont émigré en France, c'est de dire surtout ne nous faites pas honte, soyez des gens respectables, travaillez bien, ne vous faites pas remarquer. Donc tout ça, en plus de leur travail, quand on les voyait rentrer très tard le soir, parce que mon père était ouvrier et que ma maman était femme au foyer avec 6 garçons, donc je vous assure que... Pour nous, c'est ce socle familial, on l'emportait n'importe où. Donc si aujourd'hui je suis face à vous, c'est parce que aussi j'ai eu...
Les garçons déconnaient un peu, comment ça se passait à la maison?
On a fait quelques bêtises, oui, je ne vous le cache pas, mais comme mon père travaillait dans le bâtiment, il avait une main un peu comme une enclume. Donc si vous voulez, quand on prenait un coup, on dormait un peu comme la belle au bois dormant, quoi. C'était 48 heures, mais pour le coup, non, on redoutait nos parents et on voulait pas leur apporter justement... Oui, on a un profond respect. Si, moi, je parle d'idolâtrer, on idolâtre nos parents, donc pour nous, nos parents, c'est tout. Vous voyez, c'est pour ça qu'on les laisse jamais dans une boutique à vieux.
Aujourd'hui, vous êtes parents?
Oui, de 3 enfants.
Qu'est-ce qui reste de tout ça? Qu'est-ce que vous transmettez à vos enfants par rapport à ce que vous avez?
Les mêmes valeurs que mon père nous a inculquées avec notre mère, mais on est un peu plus souple. Ma génération, à moi, on vient d'une génération où on n'avait pas honte de mettre les mêmes affaires ou de se prêter les affaires avec nos frères. On n'avait pas honte aussi de ne pas avoir le dernier téléphone ou autre. On n'était pas habitué à, au bien-être. Ma mère disait souvent que c'est dans le peu qu'on trouve énormément de richesses. Mmh. Et si aujourd'hui je suis face à vous, c'est parce que j'ai eu cette éducation-là et que j'ai fait les bons choix, ainsi que mes frères.
C'est quoi tes parents ?
Mon père était un OHQ, était un ouvrier hautement qualifié, ébéniste, et ma maman, elle travaillait dans un pressing, mais ensuite elle s'est dévouée pour sa famille.
Mais justement, à propos de la famille, vous dites aujourd'hui que vous voulez la préserver de la pression de la ville, de ce qu'on peut lire et de ce qu'on peut voir. C'est pour ça que vous avez filé à la campagne.
Ouais.
Et vous dites, aujourd'hui, je suis content que mon père ne vive pas ça, que ma mère ne soit pas connectée à Internet, qu'elle reste préservée de toute cette haine régulièrement dirigée contre les musulmans de France. C'est aussi pour ces raisons que j'ai fait le choix de quitter Paris et d'élever mes enfants en province, loin de la violence et la peur dans tout mon petit village.
Ouais, c'est la réflexion du livre et en tout cas ce que moi en tout cas je ressens depuis ma génération, c'est que je ne reconnais plus le Paris dans lequel j'ai grandi. Ma femme vient d'un petit village qui s'appelle les Saintes-Maries de la Mer que je salue, dans lequel je vis actuellement. J'ai voulu que mes enfants grandissent là où il y a des animaux, la nature, et aussi leur apprendre les rudiments de la vie et pas forcément revenir dans les écoles aujourd'hui publiques où c'est une vraie catastrophe parce que les profs sont un peu dépassés, un peu comme les infirmières et tout le milieu hospitalier actuellement à l'hôpital public, qui est une vraie catastrophe pour eux, qui ne sont pas dans les bonnes conditions. J'ai vu, parce que moi c'est grâce à elles que je suis en face de vous aujourd'hui. La lumière, c'est surtout à elles qu'il faut la donner, pas à moi. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, que mes enfants grandissent là où j'ai grandi, je vous dis non.
Mais dans le 20e,
pourquoi,
c'était...
Pourquoi
dans les écoles
vous... Mais parce que
dans le 20e aujourd'hui, c'est un...
J'ai grandi à la Courneuve quand j'étais petit, et ensuite j'étais dans le 20e. Mais c'est parce que je ne suis pas d'une génération Internet. Aujourd'hui, actuellement, ce qui se passe, c'est quand même catastrophique. Il y a un manque de recul, il y a un manque d'éducation. En tout cas, de la part des éducateurs, mais aussi que les parents sont dépassés. Il y a des parents qui sont très dépassés. Je vous explique pourquoi. J'explique dans mon livre qu'il y a deux éducations. Il y a l'éducation de la maison, les enfants sont très corrects à la maison, mais il y a aussi une éducation de la rue. Et la rue, les enfants ne sont pas les mêmes. Et c'est pour ça que nous, quand on sortait, on nous disait faites attention. J'ai grandi dans un milieu sportif où j'ai des amis qui ont choisi un chemin qui leur appartient, ou d'autres ont pris un autre chemin, comme le mien, qui a été le chemin de la droiture. Aujourd'hui, vous rajoutez Internet, où vous voyez des gamins de 13 ans, lorsqu'ils frappent quelqu'un, qui sont là, en train de filmer. Je vous assure, on se dit... Qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est pas forcément les parents. Il faut pas tout remettre sur les parents. Je ne pense pas que les parents soient responsables. Je pense que les enfants sont responsables.
Ouais, Moundir, c'est quoi le rapport avec la haine aux musulmans ? Alors, vous avez fui la haine aux musulmans ?
Non, j'ai pas. Alors, ça, c'est. Je dis pas qu'il y a de la haine aux musulmans. Mais au contraire, je suis français de confession musulmane et ma religion, c'est dans le cadre de l'intime.
Ah oui.
J'en parle jamais, d'accord ? Je parle.
Julie, elle est en France. C'est écrit dans le bouquin. Hein,
que
vos parents restent préservés contre toute cette haine régulièrement dirigée contre les musulmans.
Oui, parce que bizarrement, lorsqu'on c'est un peu normal. On dit souvent que lorsqu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse, et qu'aujourd'hui, on est extrêmement stigmatisé. Alors, je ne vais pas reparler de l'identité nationale à une époque où ils ont voulu prouver de savoir si Charlemagne était notre oncle ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est obligé à chaque fois de se dire « Je suis français. Oui, mais ton prénom, il n'est pas totalement français. Oui, il faut qu'on travaille 100 fois plus dur que les autres. Il faut dire qu'effectivement, nous sommes issus d'une immigration, mais que nous sommes français à part entière. Et ne nous jugez pas. »
Pas de la haine, sûr.
Alors il faut le vivre parfois quand tu fais tes démarches.
C'est possible.
Non, bien sûr.
C'est possible,
hein,
bien sûr.
Mais bien sûr qu'il y en a. Il n'y a pas plus tard qu'en Belgique, il y a une femme qui s'est fait poignarder devant ses enfants. Pourquoi ? Ok. Aujourd'hui, il y a une actualité qui est où la stigmatisation, elle est là. Et malheureusement, à une époque, mon père l'a vécu autant d'Algérie française. Et lorsqu'ils ont émigré en France, c'est pas pour autant qu'ils ont haï la France ou ils l'ont trahi. Bien au contraire.
Oui,
la plupart de cette génération de nos parents, lorsqu'ils ont émigré pour qu'on n'ait pas à subir ce qu'eux ont subi à l'époque, pardonnez-moi, ils ont dit qu'une fois qu'ils seront à la retraite, ils retourneront au pays et finalement ils sont tombés amoureux de la France.
Donc Marine Le Pen qui monte dans les sondages, Éric Zemmour éventuellement candidat, c'est la France de la haine, ça ? De la haine du musulman et ou de l'arabe ou de l'africain ?
À votre avis ? À votre avis ? Mais il y en a un qui a été condamné pour haine raciale, non ? Moi, vous me parlez d'une extrême droite. Quand on connaît l'histoire du Front National, il n'y a plus rien à rajouter. Je pars que du principe que nous, c'est à nous de montrer l'exemple. À nous de bien travailler, qu'on soit des gens bien, et que justement, cette nouvelle jeunesse puisse reprendre et de faire de jolies choses. pour détrôner tout ça.
Oui, mais vous voyez bien quand même que vous avez un petit problème à être entendu par une petite minorité tyrannique, mais qui attire la lumière sur elle. Et ce n'est pas uniquement parce que les médias mettent la lumière sur elle, c'est parce qu'on on entend aussi un certain discours venant de certaines associations, de certaines familles, de certains clans qui tiennent des propos extrêmement radicaux. Et vous dites une chose intéressante dans votre livre, parce qu'il y a quand même des pages, des odes d'amour à la France.
Ouais.
Et vous dites notamment, concernant votre épouse qui s'est convertie, vous dites qu'elle aurait souhaité, au début de sa conversion, si j'ai cru comprendre, porter le voile, et que vous trouvez que ce n'est pas une bonne idée.
Non.
Vous l'auriez dissuadé de le faire ?
Non, ce n'est absolument pas ça. On a été éduqués, nous, dans l'amour de la religion. Donc, lorsque j'ai connu ma femme, forcément, donc, qui était catholique, on a beaucoup discuté. Et sa conversion, elle ne doit qu'à elle-même et à son illumination personnelle. Rien d'autre. Personne ne lui imposait quoi que ce soit, bien au contraire.
Ouais. Non, mais je parlais du voile. Quand elle a eu l'idée de se dire, tiens, pourquoi je porterais pas le voile ? Vous dites dans le livre,
j'ai halluciné, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. La France n'est pas un pays bienveillant à l'égard d'un tel choix. Mm-hmm. Encore moins dans le petit village du Sud, hein. c'est ce que
mais
vous écrivez.
Pour la simple et bonne raison, c'est qu'une religion...
Mais elle n'a pas décidé encore.
Non, pas du tout, mais elle fera ce qu'elle veut, en tout cas. Et en tout cas, moi, je serai là pour l'épauler sur n'importe quel choix. Si elle veut porter une jupe ou si elle veut porter le voile, elle le portera sans aucun souci. Je pars surtout du principe, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de stigmatisation. Et c'est que, contrairement aux autres pays, il y a des personnes aujourd'hui, même lorsqu'elles portent le voile, elles peuvent travailler. Moi, j'ai eu la chance de voyager dans le monde entier. Je suis allé au Canada, j'ai vu des femmes flics porter le voile. Je suis allé aux États-Unis, dans l'administration, j'ai vu des personnes porter le voile. Voilà, c'est juste une question d'ouverture d'esprit, tout simplement.
C'est une question d'histoire et de culture. La France est le berceau d'un principe qui est un principe juridique et qui est aussi un principe culturel qui s'appelle la laïcité.
Ouais.
Et on considère que les agents de l'État doivent être neutres, comme l'est l'État. Ça n'est pas une question de discrimination, c'est une question de neutralité pour justement ne pas pratiquer de discrimination.
Mais justement, vous me parlez de neutralité, mais vous savez qu'en Algérie, le droit de vote a été avancé pour les femmes bien avant en France.
Ouais.
Donc, sachant que l'Algérie française était déjà française, la législation est la même chose. Donc, vraiment.
En Algérie, s'est fait élire Drummond, qui était le pire député antisémite qu'on ait pu connaître. Il s'est fait élire en Algérie, dans l'Algérie française.
Ah, il y en a plein. Je peux même vous dire aussi que le préfet de police à l'époque qui ordonnait les tortures, c'était qui ? Un ancien président d'ici.
Il n'était pas préfet, il était ministre de l'Intérieur. Vous parlez de Mitterrand ?
Ah oui.
Oui, ouais. Il était ministre de l'Intérieur.
Oui, mais il a fini président.
Il a fini président décoré de la
France.
Mais c'est intéressant parce que vous parlez aussi de votre parcours en la télé.
Mm-hmm.
Et vous dites, j'ai envie de devenir producteur.
Que je suis.
Voilà. Mais vous dites, il va falloir, là encore, que je casse les codes dans le milieu de la télé, parce que ce n'est pas un milieu bienveillant, celui de la télé.
Ah. Bah, la télé, moi quand je parle de la télé, c'est pas celle où on nous voit actuellement avec les caméras qui sont allumées, c'est surtout lorsqu'elles sont éteintes.
Ouais.
Le plus gros du travail, c'est lorsque c'est dans les coulisses. Là, il faut travailler, il faut avoir les rendez-vous, être reçu et montrer qu'on est des gens déterminés justement à être des gens
Ne correspondez pas non plus à ce qu'on voit habituellement à la télé.
Mais c'est assez excitant lorsqu'on ne correspond pas, justement, parce que c'est un peu je retrace un peu le chemin de mon père et je crois que je fais exactement le même. Je viens avec un profil bas et à partir du moment où on me laisse ma chance, je mets le deuxième pied et j'y reste. Maintenant, ça fait 20 ans que ça dure, donc je pense que j'ai la bonne recette. Ouais.
Oui, parce que ça dure. C'est le plus dur, c'est ça.
Ça dure parce que j'ai su dire non dans ce métier, tout simplement. Quand
qu'est-ce
on dit
qu'on
non,
vous a proposé que vous avez refusé?
Deux choses qui
la ferme des célébrités.
Que ça ne m'aurait pas dérangé de le faire, mais on ne me l'a pas proposé. Mais j'ai fait quelques télé-réalités que je ne regrette pas. Mais c'est à l'époque où il y avait que 6 chaînes.
Ouais.
Il n'y avait pas beaucoup de chroniqueurs encore.
Ouais.
Maintenant, il y a cette forme de mass market qui s'est ouvert. Bien sûr, il y a les chaînes de la TNT.
Les Marseillais ou les trucs comme ça, vous ne le feriez pas aujourd'hui.
J'étais animateur pour les Marseillais. Donc aujourd'hui, je suis animateur. Non, je ne suis plus candidat. Moi, j'étais candidat il y a 20 ans.
Voilà.
Oui. Donc j'ai vite compris qu'être candidat n'était pas un métier pour moi. Et il fallait que je prenne exemple sur les meilleurs. Et j'ai vu ce métier d'animateur qui m'excitait. J'ai dit, c'est ça que j'ai envie de faire, même si j'ai un vrai métier. Et quand je suis passé animateur, je me suis dit, j'ai envie d'être coproducteur. Et je vais être producteur. Et donc voilà.
Vous avez des projets concrets, précis ?
Oui, qui sont bien précis, qui sont ficelés. Parce que je travaille avec une magnifique équipe, qui est juste extraordinaire. Et moi, pour être bon, il faut que je m'entoure des gens meilleurs que moi. Et c'est le cas.
Et donc à la rentrée, on voit quelque chose de vous.
Et donc à la rentrée, vous allez voir quelque chose. Je me suis entouré de très très bons et à la rentrée, il y aura de jolies surprises. En plus, je suis sur RMC, donc voilà, ils prennent les bons.
Question encore.
C'est très elliptique. Hein.
Pourquoi ?
Ils ne donnent pas vraiment d'informations.
Dites-moi.
Mais c'est
vous restez
sur
très,
quel domaine ? C'est un concept nouveau. Vous innovez.
Quel domaine ?
Ah ben, dans l'animation, oui, des émissions de dépassement de soi, d'aventure, voilà. Ah. Où, voilà, c'est des dépassements de soi, ce que je sais faire, voilà. Et je continue à faire.
Je me souviens, Moundir.
Oui, dites-moi.
Je me souviens que
Yannick. Je me sens très bien, je vous le dis.
Tant mieux. Yannick Noah avait dit, si Marine Le Pen est élue présidente de la République, je quitte la France. Et vous pourriez le faire. Vous
dire, je pense que c'est pas nous. Je pense qu'à mon avis, on va recevoir. Si Marine Le Pen est élue présidente de la République, on va recevoir un recommandé dans notre boîte aux lettres, en nous disant, bon, préparez-vous. Écoutez, si elle est présidente.
J'avais dit ça.
Vous avez bien compris que je plaisantais. Bon, quand même.
Donc, si elle est élue présidente de la République.
Non, elle ne le sera pas. Elle ne le sera jamais.
Certitude.
Ah, ben, certitude. Certitude.
Pourquoi?
Pour la simple et bonne raison, c'est que je crois tellement à la France et à cette jeunesse aussi qu'il est strictement interdit ici que l'extrême droite passe et dirige ce pays.
Et les électeurs de Marine Le Pen, c'est des électeurs qui sont aussi peut-être des fans de Moundir, vous savez?
Oui, mais il faut les respecter.
Elle a un spectre très large au niveau des électeurs. Vous avez même des gens de la France insoumise qui votent RN.
Oui, mais ils ont le droit. Oui. Mais ils ont le droit, et puis tant mieux, et puis il en faut. Et puis d'ailleurs, on les salue. Mais moi, en tout cas, on fera tout pour que justement cette France garde ses valeurs et qu'elle ne passe pas vers l'extrême droite.
Merci Moundir Zougari.
Merci infiniment.
À lire un parcours de vie, une famille aussi, avec six garçons, père et fils, aux éditions Robert Laffont. Moundir Zougari, qu'on retrouve le dimanche.
Et oui,
à minuit sur RMC, avec mon Daniel Riolo, que l'on salue.